Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba, je voudrais dire sans rien y ajouter, je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui propose de découvrir le portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques, un texte personnel et le partage en fin d'émission d'une bribe de phrases marquantes entendues dans l'entourage de l'invité ou l'espace public. La cinquième saison continue avec Adrien, qui est l'invité du mois d'avril 2026. Bonjour Adrien.
Bonjour Louisa.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, si tu as des passions, si tu as des métiers,
ouais,
ou un métier?
Bah, mon métier, c'est ma passion, donc je suis comédien. À côté de ça, je suis aussi auteur et scénariste. Donc je passe à peu près toutes mes journées soit à jouer, soit à écrire des trucs, à les monter, à faire des projets, essayer d'avoir des rendez-vous de prod pour promouvoir un court-métrage et avoir de la prod dessus, etc.
Ouais. Ok, donc tu as un côté autodidacte un petit peu.
Ouais, je fais tout moi-même. Ouais. J'ai été en école de théâtre, mais après je me suis mis à tout faire par moi-même, avec des copains. J'aime bien m'entourer, parce que créer tout seul, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais.
Trop bien. On commence tout de suite avec ton choix d'artiste. L'émission s'ouvre toujours par le choix d'un ou une artiste qui, toi, te touche particulièrement, ou en tout cas dont le travail t'intéresse. Est-ce que tu peux nous révéler qui est cette personne?
J'ai choisi Richard Linklater, le réalisateur américain. En gros, je l'ai choisi parce que récemment, je me suis mis à pas mal regarder de ses films, même assez assidûment. Et je suis vraiment tombé amoureux de ce qu'il faisait, c'est juste trop cool, il prend un vrai plaisir. En plus, il fait vraiment des films totalement différents, on pourrait dire un peu sans trame, mais en fait, il arrive tellement bien à filmer ses sujets et à faire des ambiances hyper agréables que bah, du coup, tu peux suivre tout un film sans qu'il y ait de nœud scénaristique forcément, tu vois. Donc c'est hyper agréable à regarder, tu te sens hyper bien, t'as envie de faire partie de ce groupe de potes. Mais aussi, il arrive à faire de la vraie comédie pure. Il a beaucoup de casquettes et à chaque fois, il les porte hyper bien, quoi. Peut-être que tu avais vu récemment, il a fait La Nouvelle Vague, où il revient sur
Godard.
Ouais, où il revient sur À bout de souffle. C'est hyper cool, en fait. Au début, tu te dis pourquoi un réalisateur américain vient mettre les mains là-dedans. En fait, tu te rends compte qu'en fait, il adore cet endroit-là. Il est hyper généreux en termes de nom, tout ça. Il adore cette histoire-là. Et puis surtout, il y a le truc, c'est vraiment, c'est des mecs qui ont pris une caméra et qui se sont mis à filmer. Et donc, c'est vraiment ça qu'il nous montre. Et ça donne juste envie de faire des choses, quoi. Ouais.
Mais je crois que ça le passionne, d'ailleurs, ce côté très presque simple et à notre portée de prendre une caméra et de filmer, de créer, en fait. On va l'écouter dans une archive. Il parle de ses débuts et de son désir naissant de faire des films. C'était en 2025, dans une interview, lors de la 69e édition du BFI London Film Festival.
Okay. Actually, when I was younger, I had shot movies with my cousin one summer when I was about 14, 15, Super 8, we edited, and I went, oh, film, I liked
En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais tourné des films avec mon cousin un été, quand j'avais environ 14 ou 15 ans, en Super 8. On avait fait du montage. Et je me suis dit, un film, j'aime sa physicalité. J'ai aussi étudié un peu la photographie, je connaissais mon chemin jusqu'à la chambre noire, j'étais bon en photo, je pense. Donc, j'aimais juste la caméra. Mais aussi, j'étais très occupée à faire du sport et d'autres choses. J'ai pensé, un jour, j'aimerais faire des films. Et je crois que ça a mûri en moi. Au fur et à mesure de mon approche du cinéma, je me disais, je pense que j'ai envie d'écrire des films, peut-être de les réaliser. Et puis, tu vois des films, il y a toujours des histoires inspirantes de gens qui appartiennent à une génération plus ancienne que toi, qui ont fait des films dans leur jardin, des films indépendants. Et tu te dis, tu peux faire un film avec un petit budget. C'est un peu comme écrire un roman, tu n'as pas besoin d'aller à Hollywood pour ça. Tu peux simplement faire ton propre film. Et une fois que tu sais ça, dans ta tête, ça a l'air tellement atteignable, tu n'as pas l'impression d'avoir besoin de quelqu'un d'autre. Tu peux juste le faire.
Il y a un côté très libre et très, ce qu'on disait, atteignable, de en fait, tu veux faire un film, bah, va dans ton jardin, ouvre la porte, va dans ton jardin, prends une caméra et crée. Bah, là, il parle de son cousin quand il avait 14-15 ans, mais ça me fait un peu penser à ce que tu as raconté de toi au début de l'émission, de bah, en fait, j'écris, je fais des films avec mes copains, on fait des courts-métrages.
Ouais.
Et c'est touchant parce qu'il parle des générations antérieures qui sont des sources d'inspiration. Donc, est-ce que toi, tu dirais que là, ce qu'il dit et lui, comment il fait ses films, ça t'inspire, toi, pour être qui tu es dans ton travail, en fait, dans ta création?
Ouais, c'est clair. Bah, je pense que comme on parlait tout à l'heure de ça sur Nouvelle Vague, lui, il a été inspiré par Godard sur la manière de prendre une caméra et de filmer. Et bah, le fait qu'il le retranscrive par Nouvelle Vague, ça me touche directement, mais le fait aussi de voir ses autres films, c'est super cool. Moi aussi, je dis ça parce qu'avant-hier, j'ai vu Tangerine de Sean Baker, celui qui a réalisé Anora. Et en gros, c'est tout filmé à l'iPhone 5S. Et donc, ça a aussi ce truc de t'impulser quelque chose, de te dire, mais en fait, tu peux vraiment faire des choses. Il y a la phrase un peu bateau, enfin bateau, non, elle n'est pas du tout bateau, elle est géniale en vrai, de Orelsan qui dit, tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. En soi, c'est vrai, quoi, parce qu'il y a plein d'autres supports qui peuvent te permettre que ce soit bien, pas que l'image. Tu peux aussi avoir un bon scénario, avoir des bonnes vannes, savoir faire taper les vannes, avoir des bons acteurs, t'amuser. Enfin, ouais, quand le kiff se voit, c'est ça qui est cool, ouais.
Après, il y a faire des films et il y a après pouvoir les montrer au grand public, les diffuser. Et d'où ce que tu disais tout à l'heure de je fais mes trucs dans mon coin, je suis bien entourée, mais je fais quand même des appels pour des producteurs, etc. Parce que ben.
Ouais.
Ça a pour but d'être montré, quoi, ces films.
Bah oui, et puis aussi, il y a un moment où tu te restreins et tu peux trouver de l'originalité et trouver des super trucs. Mais aussi, il y a un moment où bah, t'écris un scénario et t'as envie qu'un personnage y prenne feu, quoi. Et tu vas pas mettre feu à ton cousin qui a bien voulu jouer dans le film, donc tu fais ça avec de la prod et ouais, voilà, c'est ça.
Il y a aussi quelque chose que je trouve assez atypique de ce réalisateur, mais je ne sais pas si c'est pour ça que tu l'as choisi, c'est le côté, il a une idée en tête, un projet, et ça peut durer des années et des années avant que le film sorte. Et je pense à sa trilogie, Before Sunrise, Before Sunset, etc. Toi, ça t'inspire ce côté, en fait, j'ai une idée, peut-être que ça va prendre 20 ans, mais je vais la faire en fait.
Je sais pas, je pense que là, en ce moment de ma vie, je suis pas trop sur ce genre de considération. J'ai envie de faire des choses et de voir le résultat assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est fou ce qu'il fait sur mes pareils Boyhood. Je sais pas sur combien de temps il le filme, mais sur plusieurs décennies. Et c'est dingue. Et ça te fait un impact encore plus fort le fait qu'il y ait pas de changement de comédien. Mais même Before Sun, même la trilogie des Before, c'est trop bien.
Donc il propose plein de choses à voir à l'écran et très inspirantes.
Ouais.
Merci, on continue avec ton coup de cœur musical. La deuxième étape de l'émission, c'est la musique et c'est toi une chanson coup de cœur, que ce soit du moment ou que ce soit de toujours.
Ouais.
C'est très libre. Qu'est-ce que tu as choisi comme morceau et comme groupe ?
Bah, je me suis creusé la tête pour de toujours et j'ai vraiment pas réussi à trouver. Donc je me suis dit du moment et en ce moment je fais que d'écouter Geese, Cowboy Nudes.
Don't be alright. Be my one.
Adrien, pourquoi ce choix ?
Parce que comme je disais, j'écoute que ça en ce moment et que je trouve ça vraiment trop cool. C'est vraiment les cool kids new-yorkais actuels. Non, aussi, il y a plein d'espoir et puis c'est hyper bien fait aussi au-delà de ça, quoi. Ça groove carrément. Ils ont ça, c'est leur deuxième album. Ils en ont trois pour l'instant. Donc, et puis tu sens les niveaux de production augmenter et tu sens que même avec les niveaux de production qui augmentent, ils sont toujours aussi bons, toujours aussi créatifs.
Et cette chanson, elle te met dans quel état d'esprit ? Parce que tu disais, il y a de l'espoir et je suis assez d'accord. C'est un des mots que j'avais noté aussi en écoutant. Il y a de l'espoir, il y a du dynamisme, il y a un truc qui avance et beaucoup de joie aussi, je sais pas, ça te met dans quel état ?
Mais beaucoup de joie et tout ça dans un monde en bordel, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment un monde en bordel, en décadence, qui part totalement steak, mais il y a quand même cette espèce d'espoir de « viens, ça va être bien, rejoins le truc et tout », donc...
Il y a un truc un peu, ouais, presque à la Bonnie and Clyde, on se barre d'ici, quoi.
Ouais, et on
y va, on s'en va ensemble.
Ouais, à fond. Marche très bien quand on court, cette chanson.
Ah ouais, tu l'écoutes en courant, du coup.
Ouais, mais je l'ai écouté en courant hier, ouais, ça marchait très bien, je me suis refait l'album. Mais en fait, à vrai dire, je fais à peu près que ça. Je pense que quand j'aurai le compte rendu de mon mois, là, sur ma plateforme, il va y avoir que ça, en fait.
Est-ce que c'est la BO de ta vie en ce moment ?
C'est un peu la BO de ma vie en ce moment, hein, en vrai. Ouais, grave, hein. Franchement, dans le sens où j'écoute à peu près que ça. Van Morrison, un petit peu, mais ça, j'y reviendrai plus tard.
Il répète beaucoup, le chanteur, « Be my warrior », genre ouais. Soit ma guerrière ou soit mon guerrier. Là, j'y vois aussi beaucoup d'espoir, mais c'est... Ouais, il y a un truc amoureux de déclaration, quoi.
Ouais, grave, il y a un truc un peu de nous deux contre le monde, quoi. Et ça, c'est assez cool. En fait, ouais, c'est pour ça que j'ai choisi celle-là et pas une autre, parce qu'au-delà de musicalement, je la trouve cool. Il y a vraiment ce truc-là aussi qui se rapproche sur des éléments de ma vie, moi avec ma copine, etc. Le monde dans lequel on est, qu'un monde artistique où il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, et donc on se bat aussi pour avancer là-dedans. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien et on continue. Donc ouais, ça me parlait bien. Je t'avoue que oui, c'est marrant que tu aies relevé celle-là, parce que celle-là aussi, elle m'est tapée en tête assez vite.
Ce que tu disais aussi tout à l'heure de « je fais des films, je fais tout ça, c'est créatif, mais je suis bien entouré et on est plus fort ensemble, quoi.
» Et du coup, les échecs, ils sont beaucoup plus faciles à vivre avec une warrior, quoi.
On continue avec ton partage de texte. C'est l'étape centrale de l'émission, dans le sens où tu te livres, sans mauvais jeu de mots, parce que tu partages un texte que toi, tu as écrit. Alors, ça peut être effectivement un texte d'il y a longtemps, ça peut être un texte de très peu de temps. Toi, quand est-ce que tu l'as écrit ?
C'est un texte d'il y a 2 heures que j'ai un petit peu terminé sur la route, sur le passage piéton, en essayant de faire gaffe, quoi. J'ai terminé quelques petites choses. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit dans le style... un peu nouvelle, comme ça, quoi. Ouais.
Génial. Eh ben, on t'écoute. Merci beaucoup.
Ok. Je vais rentrer chez moi dimanche. Je sais pas trop ce que je vais foutre. Déjà, je vais aller voir la mer. C'est ça qui est bien avec la mer. C'est une activité à part entière. Un peu comme un trampo parc, mais gratuit. Et sans trampoline. Et avec un horizon bien plus dégagé. C'est aussi ça le truc à Paris. Il y a tout plein de choses à faire et de gens à rencontrer, mais tu vois jamais plus loin que le bout de ton blaire. C'est pour ça que les touristes vont au Sacré-Cœur ou que les jeunes cinéastes filment leurs courts-métrages sur le belvédère de Belleville. Faut respirer des yeux de temps à autre. Moi, je vais aller traîner sur ma petite pointe derrière le sentier côtier, où qui a pas le droit d'aller parce que ça risque de s'ébouler. Je me calerai face aux vagues, sur la falaise, juste à côté du rocher qui protège du Zef, allongé sur des longues herbes folles qui mettent à l'amende n'importe quel matelas à mémoire de forme. Et là, je regarderai au loin. Là, je regarderai la mer pendant des heures. Ou des minutes si ça caille trop. J'irai avec ma mère, ou peut-être avec mon père, ou peut-être avec Dylan. Apparemment, il n'a pas grand-chose à faire cette semaine. Peut-être qu'on va ressortir nos cannes. Ce qui est bien avec Dylan, c'est qu'il ne me fait pas passer pour le néo-parisien à la con qui sait plus rien faire de ses mains. Il est au moins aussi nul à chier que moi en pêche. On va casser nos lignes et avoir froid aux mains. Mais surtout, on va discuter pour ralentir le temps qui file, comme si une dorade tirait sur ce grand moulinet qu'est la vie. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, je fais des métaphores de merde. Peut-être qu'on écoutera Van Morrison ou Geese. Peut-être qu'on boira des bières. Peut-être qu'on fumera un petit. Ou peut-être pas. Les temps changent. On est des conducteurs responsables. Faut qu'il aide sa meuf avec son nouveau business. Faut que je sois cohérent quand je vais parler avec mon père au resto. Enfin voilà, on grandit quoi. Au pire, on fera ça dans son jardin et je resterai dormir. Il a une vue sur la mer dans son jardin, Dylan. Bon, faut monter sur la vieille souche d'arbre pour l'apercevoir, mais quand même. Ah oui, et il y a aussi Paul qui va faire un DJ set. C'est impeccable ça. Je vais recroiser les vieux copains, et si on sait plus trop quoi se dire, on pourra toujours écouter les vinyles qu'il voudra bien faire tourner. Peut-être qu'en allant au bar, je croiserai cette fille avec qui je m'étais promis de sortir quand j'étais au collège. Peut-être même que je serai pris d'un stress soudain quand elle m'adressera la parole. Mais peut-être que je serai heureux de ne pas avoir été plus loin parce que rien de tout ça ne vaut la peine. Quitte à rendre fâché tout rouge l'adolescent que j'étais. Désolé petit gars, mais ce sera pas pour cette fois. Et arrête de mettre autant de gel dans tes cheveux. Bon, tout cela étant dit, moi je suis pas plus avancé. Je sais toujours pas vraiment ce que je vais faire, mais je sais qui je vais voir. Commençons par la mère.
Merci beaucoup pour ton partage de texte.
De rien.
Sachant que ça me rappelle un petit peu ce que tu disais par rapport à ton choix d'artiste de rentrer dans la vie des personnages dans un film. Et là, on a un peu l'impression que tu ouvres une porte sur ta vie, puisque un moment et des gens qui t'entourent.
Ouais, ouais.
On continue avec ton œuvre phare, donc c'est-à-dire que parmi tous les types d'art possibles, ouais, tu as dû choisir une œuvre qui, toi, t'a parlé, t'a touché ou t'a impressionné. En tout cas, tu vas nous en parler. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre ?
Moi, j'ai choisi le spectacle Macbeth du Monstrum Théâtre. Parce qu'en tant que théâtreux, il fallait que je propose du théâtre. Non, mais en vrai, sans rigoler...
C'était une injonction.
Sans rigoler, non, je l'aurais présenté dans tous les cas parce que c'est vraiment trop bien. C'est une troupe qui fait du théâtre de masque. Donc, il peut y avoir ce truc-là à première vue où tu te dis « Ah, aller voir du masque et tout, c'est un truc un peu... » Je sais pas, ça a peut-être une image un peu poussiéreuse quand t'es pas trop dans le monde du théâtre. Mais en fait, tu vois vraiment des magnifiques acteurs avec beaucoup de physicalité. Mmh. C'est assez impressionnant, ça. Et puis... une superbe interprétation, ils sortent tous d'école nationale, c'est génial. Mais pour le coup, Macbeth, c'est une réécriture de Macbeth de Shakespeare, mais avec un K, là, si vous voulez le retrouver. C'est une claque visuelle, sonore, sur les effets musicaux, il y a vraiment des tableaux magnifiques. Même les costumes, tout est léché, et puis c'est hyper bien pensé aussi. Il y a un costume de la reine à un moment, et la traîne de sa robe, c'est vraiment une tente de 2 secondes que tu as. Et ça tue, c'est pop, mais en même temps, il y a tous des décorums du Shakespeare avec du sang, de la matière. Ils jouent vraiment avec du slime rouge, etc.
Et ouais, c'est une compagnie qui joue beaucoup sur les sensations créées par l'image plastique et les sons, etc. Et ouais, en plus, tu parlais de masque, mais on peut préciser que c'est une espèce de seconde peau, en fait. C'est presque pas... C'est pas des masques de Commedia dell'arte, quoi. C'est vraiment un truc où t'as l'impression de voir des personnages qui ne sont pas humains et à la fois il y a de l'humain, c'est un peu...
Ouais, clairement.
C'est très hybride, quoi. On plonge dans le spectacle en écoutant la bande-annonce.
Nous avons perdu la guerre. Et nous... C'est un spectacle triste. Macbeth l'a gagné. Devant mon intérêt, tout doit courber le dos. C'est notre heure, je le sais. Horreur ! Horreur !
Et je voulais parler quand même de l'ambiance un peu sombre qu'on entend rien qu'avec la dimension sonore. Et les rires un peu diaboliques et tout ça, ça fait quelque chose.
Ouais, ça fait quelque chose. Il y a un petit frisson qui te parcourt les chines quand le roi arrive au début. C'est la première personne qu'on entend avec la voix un peu chevrotante qui crie Macbeth. Et c'est super ce que fait. Je crois que c'est une comédienne qui joue ça. Mais j'avais rencontré, quelques jours après l'avoir vue à Montreuil, une des comédiennes justement. Et on avait pu discuter avec elle. En fait... Elle nous avait parlé du spectacle, mais pas du tout sur des considérations un peu philosophiques de comment prendre Shakespeare et s'attaquer à ce monument et tout ça. Eux, c'était vraiment... elle et eux, c'était vraiment quelque chose de très... dans le concret, quoi. Comment on fait nos masques? Comment on fait les poches de sang qu'on va cracher? Avec quoi on les fait? Quel colorant on met? Avec quel yaourt? Dans quelle poche en plastique qu'on peut éclater?
C'est la partie artisanale du projet, quoi.
C'est vraiment, vraiment des artisans. C'est exactement ça.
Et est-ce que toi, t'aspirerais à faire sur scène participer à des projets comme ça qui choquent un peu les spectateurs en salle?
Ouais, ça doit être trop cool parce que moi, c'est les premières choses qui m'ont donné envie de faire du théâtre. Ça doit être vraiment génial, ouais. Je me souviens, j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais en prépa, et j'avais vu Les Chiens de Navarre, et j'avais vu Les Armoires Normandes, et donc on l'avait vu dans le Grand Théâtre de Lorient, parce que je suis breton. Et j'ai vraiment le souvenir du début, où il y a Jésus qui est sur sa croix couvert de sang, et qui parle avec le public en pétant complètement le quatrième mur. D'ailleurs, il parle pas du tout... Enfin, genre, il parle comme nous, c'est hyper vulgaire comment il parle, etc. Et je vois vraiment tous les abonnés du Théâtre de l'Orient, donc plutôt des personnes âgées, d'un certain niveau social, etc., qui se cassent du théâtre. Et je voyais ça, j'étais en mode, oh, c'est génial. Et lui, il s'en délectait en plus de ça, qu'il y ait des papis et des mamies de droite qui se cassent. Tu sentais que ça le régalait.
Ça participe presque au spectacle, quoi. C'est le happening du truc.
Ah ouais, c'était génial. Et je me suis dit, oh, c'est fou. Et après, j'ai vu le spectacle. Et en vrai, je remercie vraiment la prof de culture générale. Malheureusement, je ne me souviens plus de son nom.
Bah, big up à elle, en tout cas.
Gros big up, ouais.
Merci, on termine l'émission avec ta bribe de phrase.
Hey, listen. You too crazy, nigga. You better stop now. You better stop. Let me tell you something.
On termine l'émission, comme chaque mois, avec une bribe de phrase que tu as pu entendre, que ce soit dans ton entourage proche ou plutôt dans l'espace public, les transports, les cafés, etc. C'est une phrase qui t'a marqué pour une raison ou pour une autre. Est-ce que, déjà, t'as l'impression d'être assez attentif, toi, dans ta vie de tous les jours, à des conversations autour de toi, à des phrases marquantes, ou tu t'y es prêté pour l'émission ?
Assez attentif, mais pas assez organisé. Parce que là, par exemple, je voulais retrouver une phrase de ma tante qui a un vocabulaire hyper fleuri, c'est génial, elle a des métaphores pour tout, elle est trop forte à ça. Et je ne l'ai pas retrouvée, malheureusement.
Parce que tu l'avais notée ?
Je l'avais notée, mais je ne l'ai pas retrouvée, parce que j'ai 3500 notes. Du coup, j'ai tiré une bribe de phrase que j'ai entendue dans un café, mais j'ai entendue dans ma tête puisque je lisais.
Oh, wow.
C'est une bribe de phrase de Céline dans le voyage au bout de la nuit, mais ça me permet de... Je le lis. Hein, Alcide m'attendait. Il était un peu vexé. Ce fut cette invitation dont venait de m'honorer le lieutenant Grappa qui le décida sans doute aux grandes confidences. Et elles étaient salées, les confidences. Il me fit, sans que je l'en priasse, de Grappa, un portrait express au caca fumant. C'est là-dessus qu'on finira cette émission. Parce qu'à vrai dire, dans tout ce que j'ai lu dans Voyage au bout de la nuit, il y a des passages absolument géniaux, etc. Mais c'est justement là où je voulais en venir, c'est de prendre la pire des matières et d'en faire quelque chose que j'ai trouvé génial sur le coup en me disant « mais c'est trop marrant ». Et surtout le fait de passer de « que je l'en priasse », donc j'ai regardé avant, subjonctif imparfait, pour après étirer sa jambe et aller toucher au caca, je trouve ça, ça m'a beaucoup plu.
Oui, t'as l'air d'être curieux et de bien aimer les différents niveaux de langue, style de langage ou de quoi on parle, quoi.
Ouais, exactement. Mais c'est ça.
Après, c'est ton métier aussi, quoi. En tant que comédien, les mots.
Ouais, et en tant que dialoguiste aussi, le fait d'avoir des dialogues qui tapent un peu. Enfin, dialoguiste.
J'adore ce mot dialoguiste, priasse. On en est là. Eh ben, merci beaucoup, Adrien, d'avoir été la voix enchantée d'avril 2026. Ça passe vite toutes ces années. Rosalie Berne était à la réalisation. On se retrouve le mardi 5 mai à 18h sur Radio Campus Paris et quand vous voulez en podcast sur toutes les applications d'écoute.